17h03 sur Fréquence Mistral, le 99.2. Nous nous retrouvons pour une toute première. C'est le début d'une nouvelle émission qui s'appelle donc Au Carrefour des Initiatives, consacrée à l'économie alternative. Les amis, c'est jusqu'à 18h avec un florilège d'invités prestigieux, hein, n'est-ce pas, Charlie? Donc, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral. Je te passe le flambeau.
Bonsoir à tous. Je sais pas si on m'entend bien à la radio. Donc effectivement, Charlie, je vais animer entre guillemets cette émission d'une heure en compagnie de plusieurs invités. Une nouvelle émission effectivement sur Fréquence Mistral qui s'appelle Au Carrefour des Initiatives. Cette nouvelle émission, on va chercher en fait à promouvoir les initiatives locales qui s'inscrivent notamment dans une nouvelle dynamique de développement plus responsable et éthique, des initiatives qui ne cherchent pas forcément à faire de l'économie finalement une finalité, mais bien un moyen d'eux. Le développement économique est bien évidemment indispensable sur les territoires, mais il existe un moyen de faire de l'économie plus respectueuse de notre planète finalement. C'est un peu l'objet de cette émission, de façon globale, qui n'a pas d'autre volonté que d'essayer de mettre en avant et de promouvoir ces initiatives locales. Maintenant, nous allons présenter un peu les invités qui vont faire l'objet de cette émission. Donc il y a Jean-Marc ici présent qui va vous présenter la roue, et on va échanger pendant un bon moment sur cette initiative locale qui est la monnaie locale qui se met en place sur le 04 notamment. On parlera également de financement participatif avec Léonard qui est maraîcher à Aubignosc. On parlera aussi avec Julie et Andy de financement participatif, mais là sur le volet un peu plus culturel dans le cadre du festival Regarde sous tes fenêtres. Voilà en gros, merci d'être présent à cette nouvelle émission Au Carrefour des Initiatives. Et puis, on va tout de suite faire une petite pause musicale, Mario.
Très bien, donc une pause musicale, avec un titre en particulier, Charlie?
Oui, un titre qui évoque un peu le thème de cette émission pour commencer. C'est un titre des Pink Floyd,
bien
qui
sûr.
S'appelle Money.
Allez, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral, on se retrouve juste après ça.
telling him why it wasn't coming on Fade 11.
Fréquence Mistral, Sisteron, Val de Durande.
Retour sur Fréquence Mistral dans l'émission Carrefour des Initiatives avec Charlie Divry.
Merci Mario. Donc on va passer à ce premier temps d'émission sur les économies un peu alternatives, l'économie alternative, avec un premier temps sur la monnaie locale. Alors l'idée de monnaie locale n'est pas récente finalement, en fait ça existe déjà depuis, et notamment durant la dépression de 1929 aux États-Unis. Elles sont de retour depuis plus d'une vingtaine d'années, avec notamment l'objectif, et on en parlera un peu plus concrètement avec Jean-Marc tout à l'heure, de lutter contre la pauvreté monétaire et surtout redynamiser l'économie de proximité finalement. Nous verrons au travers de la roue qu'il y a aussi une idée et un enjeu un peu plus éthique au travers d'une charte, au travers notamment de la charte de la roue du 04 et de la région PACA de plus largement. Celle-ci, les personnes en fait qui utilisent les monnaies locales ont le sentiment encore plus aujourd'hui dans une économie mondialisée que l'argent dépasse en fait leur échappe, qu'ils dépensent leur échappe au profit des grandes surfaces. On peut résumer un peu l'idée comme ça, même chose, on débattra de tous ces sujets-là par la suite, que le bénéfice n'est pas en fait directement au profit du local, en termes d'emploi, mais aussi de revenus locaux, etc. Alors il existe en fait aujourd'hui plus de 2000 ce qu'on appelle titres monétaires à l'échelle mondiale. En Belgique, on a par exemple le RES, en Allemagne le Regiogeld, c'est pas forcément évident à prononcer. En Suisse, avec le WIR, qui est très connu, en fait, utilisé par plus de 60 000 entreprises. En France, on retrouve l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, la luciole en Ardèche, et puis, bien évidemment, la roue à l'échelle de la région PACA, et plus récemment, en fait, depuis quelques mois, la roue est également présente dans nos territoires sur le 04. Alors, on a là, justement, Jean-Marc Jugan pour nous en parler. Par quoi commencer? Et présente-nous un peu depuis quand la roue existe, et puis finalement peut-être aussi son émergence plus large à l'échelle de la région PACA.
Ah oui, bien sûr, bonjour. Donc je fais partie de la collégiale de CEF 04 hein, qui distribue la roue sur le département. Donc, on a commencé nous à partir de mi-mars, où on s'est créé en association et on a commencé à distribuer des billets, à démarcher les gens. Mais en fait la roue existe depuis un peu plus de 2 ans, elle a commencé à Apt. Où une personne a une idée, si on faisait une monnaie locale complémentaire, donc pour donner des moyens d'action aux gens et d'agir sur leur territoire. Donc c'est une aventure qui avait commencé un petit peu avant et que ici des gens assez motivés ont voulu reprendre. Et donc la roue est arrivée ici. Et l'intérêt de la roue comme monnaie locale complémentaire, c'est que ça va être une des premières qui sera au niveau régional. Toutes les autres sont à un niveau inférieur en termes de géographie.
Tu as précisé quelque chose, Jean-Marc, permets. Tu as parlé de monnaie complémentaire. Effectivement, l'idée, ce n'est pas de remplacer l'euro. C'est bien, évidemment, d'être en complément de l'euro, en fait.
Complètement. L'ambition, ce n'est pas de créer une nouvelle monnaie, même si on a choisi l'acronyme euro. C'est de venir en appoint à l'économie pour favoriser tout ce qui est échange local, tout ce qui est... Donc, tu as parlé de charte éthique. Donc, derrière, il faut lire ce qui est respectueux du social, du lien avec les gens, et que l'argent n'aille pas alimenter les bulles de la finance, par exemple, ou le compte de quelqu'un au Panama, quoi, par exemple.
On a aussi autour de la table Léonard qui, on le verra dans le deuxième temps de l'émission, qui est consacré plutôt au financement participatif, mais en tout cas il peut échanger sur cette thématique puisqu'il est autour de la table.
Bonsoir.
Merci Léonard d'être présent. Donc la monnaie locale, elle se développe depuis quelques mois. Peut parler un peu de chiffres? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la monnaie locale? Enfin la roue en fait.
Donc au niveau 04, donc c'est un début. Hein, donc on est à peu près à 200 adhérents et une soixantaine de commerçants. Alors les commerçants principalement, on a commencé à cibler plutôt les maraîchers, les producteurs dans le bio et donc dans le local. On est organisé en groupe, hein, donc après c'est relativement facile de trouver un groupe pour y participer. Donc il y a sur Sisteron Moyenne Durance, sur Fort-Calquier, Digne, Manosque. Donc ce sont des groupes de bénévoles qui sont là pour pour faire la promotion de la roue et aussi aider au bureau de change. Donc comme la roue existe, on a des bureaux de change, il y a des billets, il y a toute une économie qui commence à se développer. Donc je pense qu'on doit être à peu près à entre 3000 et 5000 roues qui tournent sur le territoire. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et rien qu'à Sisteron, il y a au moins, alors de mémoire, je pense entre 5 et 6 commerces qui prennent la roue, dont 3 bureaux de change aussi, quoi.
D'accord. Donc ça se met en place tranquillement. On l'a vu déjà dans les différents magasins qu'il peut y avoir. Il y a vraiment une spécificité. L'idée, c'est d'être dans des secteurs d'activité plutôt responsables, finalement. On a parlé de l'agriculture biologique. D'ailleurs, Léonard est en agriculture biologique au niveau du maraîchage. Est-ce que c'est le type d'idée qui pourrait vous intéresser dans le cadre de la mise en place de la roue sur le territoire,
oui. Oui, moi, c'est, quoi, après, je découvre un peu, j'ai entendu parler de loin en loin de cette monnaie locale qui se met en place. Moi, je n'avais pas encore été démarché jusque-là. On a pu commencer à parler un petit peu avec Jean-Marc. C'est intéressant comme projet, cette monnaie locale. Je demande à mieux connaître et mieux comprendre et peut-être si tu peux, Jean-Marc, m'expliquer un peu comment ça peut se passer pour moi si jamais en tant que maraîcher, donc moi je fais 2 marchés par semaine, comment je peux mettre en place la roue sur mon stand par exemple.
D'accord, bon, très simplement.
D'accord.
Réponse courte, la réponse longue, donc on dispose de bureaux de change, donc il faut que tu deviennes adhérent de l'association, parce que une roue, on dit monnaie locale, mais en fait c'est un coupon d'achat, parce qu'on n'a pas le droit de battre de la monnaie en dehors. C'est un peu comme un ticket restaurant, faut voir ça.
D'accord.
Donc une fois que tu deviens adhérent, donc tu as le droit d'acheter et d'échanger en roue.
Ouais. Donc il faut que moi j'adhère et mes clients, il faut qu'ils adhèrent aussi, eux aussi.
Aussi. Ouais,
ah,
ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc c'est la même adhésion pour eux comme pour moi ou
c'est le même type d'adhésion, sauf que bon pour les professionnels c'est 20 euros par an et les gens sous minima sociaux sont à 5 euros par famille quoi.
D'accord.
Voilà. Donc toujours sur un an. Après, il y a juste une chose simple à garder en tête, c'est que une roue c'est toujours 1 euro. Donc il n'y a pas de double comptabilité ou quoi que ce soit de plus à tenir.
D'accord.
Et bien sûr, l'idée, c'est que la roue tourne. Donc on est contre la thésaurisation. Donc il ne faut pas que les gens amassent. Donc l'intérêt, si quelqu'un vient de payer en roue, tu rends la monnaie en roue le plus possible. Bon, les billets vont de 1 à 50 roues, je crois.
D'accord.
Oui, c'est ça. On n'a pas de pièces. Donc les pièces devront rester des centimes d'euros normalement. Quoi.
D'accord.
Et donc tu prendrais des roues pour ton marché, par exemple, je sais pas, moi, on va dire, allez, 100 roues pour illustrer,
ouais.
Au bureau de change. Et donc il y a des gens qui viendraient te payer en roues ou en euros, donc tu rends la pointe selon.
Ouais.
Et à un moment donné, tu as des fournisseurs en bio qui prennent la roue, donc tu peux dépenser ton argent vers là.
Ouais.
Ou bien à un moment donné, tu as envie de récupérer des euros parce que tu veux les investir dans les domaines. Bon, il n'y a pas la roue ou pas la roue encore.
D'accord.
Donc, en ce moment, tu vas au bureau de change et s'ils ont assez d'argent, tu récupères ton argent en euros.
Ouais.
Ou bien, on te fait un chèque par derrière, quoi.
D'accord.
Donc finalement, enfin, c'est peut-être difficile à visualiser aussi pour ceux qui nous écoutent. Concrètement, comment on peut savoir quel magasin est adhérent? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des moyens de communication aujourd'hui autour de la roue pour qu'on puisse l'identifier assez rapidement? Pourquoi pas évoquer le petit logo aussi?
D'accord. Sur les marchés, il y a un sticker « On prend la roue », donc les commerçants ont.
D'accord.
Mais de façon plus importante, on a sur le site www.laroue.org, donc www.laroue.org, qui centralise toutes les informations au niveau régional. Il y a une carte de tous les professionnels qui prennent la roue. Donc où que vous soyez, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, dans le 04 ou Vaucluse, on peut trouver. Donc si tu t'inscris, tu seras sur ce listing aussi. Les gens pourront te trouver. Quoi.
D'accord.
On a parlé de la roue qui existait déjà depuis un petit moment. Est-ce que tu as un retour, Jean-Marc, sur ce qui s'est fait c'est dans le 84 dans la première roue?
Voilà, alors oui, c'est ça. Alors les choses ont vraiment commencé à bouger parce que plus on parlait aux gens, plus on s'apercevait qu'il y avait une attente, les gens avaient envie d'action, de faire quelque chose dans la vie de tous les jours. Le film Demain a quand même pas mal aidé à faire connaître toutes les actions positives qui étaient possibles de faire, dont ben, se réapproprier un outil qui est la monnaie. Parce que c'est juste un outil d'échange. Enfin, c'est un peu plus qu'un outil d'échange, c'est un outil de lien et c'est pas uniquement financier. Et donc, en parlant aux gens, tout d'un coup, on s'est aperçu, bah oui, tiens, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose de concret. Et donc, depuis le mois de mars, il y a aussi une association, donc, Sève la roue, qui s'est mise en place au niveau régional. Donc, c'est une mutualisation de toutes ces roues qui est exactement la même. Donc, si j'ai un billet aujourd'hui, je peux le dépenser à Sisteron, je peux le dépenser sur Marseille, Cours Julien, par exemple.
Ça, c'est important aussi, peut-être, pour pouvoir diffuser un peu plus largement la monnaie, quoi. C'est un élément important.
Et le but, c'est de suivre un peu l'axe durancien, qui est aussi un axe de commerce, donc pour que les producteurs puissent, ou les transformateurs puissent payer en roue, etc. Et donc créer un cercle vertueux où l'argent n'a plus à sortir trop de la région et rester sur place pour alimenter notre économie. Parce que par exemple, un euro, si vous prenez le matin, vous allez faire vos courses, le soir, cet euro est de nouveau dans une banque. Alors qu'on a vu ça avec le sol violette, où ils ont un petit système pour suivre les billets. Une monnaie locale va changer entre 5 et 7 fois demain avant de retourner à la banque. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment fait participer les gens à l'économie locale.
D'accord. Elle est plus dynamique que la monnaie de base, en fait, effectivement. Ouais.
Elle circule plus rapidement. Elle circule plus, ça évite la thésaurisation et donc ça crée du PIB en fait, du PIB local, hein, si on peut dire ça comme ça, quoi.
D'accord.
Je citais 3 000, mais dans 3 000 euros à peu près, mais prendre dans le monde, en France, tu avais parlé dans le sud-ouest, il y a l'OCHCO aussi, qui est une monnaie dans le Pays basque. Eux sont à l'équivalent de 400 000 euros. En Allemagne, ils ont réussi à avoir des chiffres d'affaires intérieurs, hein, donc jusqu'à 6 millions d'euros. Donc c'est une monnaie locale, ça commence à devenir grand, quoi.
Oui, après, ouais. Les échanges, plus il y en a et plus les échanges deviennent importants et plus le volume augmente, quoi. Ça peut être très intéressant.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu aussi, entre guillemets, ça permet de visualiser en fait un peu l'activité économique aussi sur un territoire. Tu as parlé tout à l'heure de l'axe de la durance. Mm-hmm. C'est intéressant que ce soit identifié comme un axe économique important sur le territoire et qu'il faut voir plus large de toute façon pour pouvoir rendre finalement efficace cette monnaie, quoi.
Oui, c'est vrai qu'elle a la pertinence du territoire, parce que si on crée une monnaie locale à un niveau très très local, donc du village, on a vite fait le tour des gens qui peuvent la prendre, des échanges, donc on se rapproche plus du système du sel, donc c'est un échange de services. Si on fait trop trop grand, on se rapproche à niveau national et il n'y a pas d'intérêt non plus, et pour l'instant on pense, on a l'impression en tout cas que ça marche bien d'un point de vue régional. Et donc Sève la roue, donc l'association de la roue, avec d'autres monnaies, sont en train de discuter avec le conseil régional pour avancer et voir ce qui peut être fait avec l'aide des collectivités ou pas.
Ouais, parce qu'on parle au niveau régional, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est les transports en commun, par exemple, qui pourraient être payés avec la roue. Mais je m'imagine que on n'y est pas encore.
Pas encore, mais on est complètement ouvert à ça, bien sûr.
Ouais. Il y avait même... alors, je vois que tu as le dossier, Jean-Marc, spécial sur l'alternative économique, sur les monnaies, en fait, réinventer la monnaie. Ouais. C'est le titre du dossier spécial. Et puis, on l'a vu aussi je l'ai vu au travers de différents bouquins. Il y a même dans certaines villes de Londres, il me semble que c'est Bristol.
C'est ça, le Bristol Pound.
Voilà, et le maire, en fait, se fait rémunérer grâce à cette monnaie locale. Il me semble que c'est ça.
Oui, c'est complètement intégré. Donc, il y a les collectivités qui payent leurs employés avec leur monnaie locale, hein, ou une partie, enfin, ceux qui veulent en tout cas. Il y a aussi la possibilité, ça a été dématérialisé. Donc, en fait, les gens peuvent aussi payer avec leur carte en monnaie locale, ou retirer à des guichets leur monnaie locale. Donc c'est vraiment comme une vraie monnaie.
Voilà, c'est ça.
Toutes les facilités d'utilisation d'une monnaie, en sachant qu'on reste quand même éthique et vertueux.
Et juste une question par rapport à ça, les banques, elles doivent être pas trop contentes de cet argent qui leur échappe, dans un sens.
Bon, les banques sont pas encore aux abois. Hein.
D'accord. Non, mais je sais pas, mais de ce que je m'imagine, c'est avoir ça qui se met en place, c'est pour, dans un sens, éviter donc cet argent qui soit stocké dans les banques et qui serve à des profits dans les paradis fiscaux et autres. Mmh. Et j'imagine que, justement, ça doit déranger certaines personnes. Et est-ce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là, qui veulent attaquer
pas, pas que je sache. Jusqu'à récemment, là, on a eu l'engagement du gouvernement français en faveur des monnaies locales. D'accord. Il y a eu la création des CRES, donc les conseils régionaux de l'économie sociale et solidaire. Donc là-bas récemment, en mai, ils étaient venus en consultation à Sisteron et un peu sur tout le territoire. On était présents là-bas.
D'accord.
Donc il y a un vrai mouvement vraiment vers ça. Mais après, c'est vrai que tu poses la question des banques. L'argent que nous, on reçoit en tant qu'association, va sur une banque coopérative qui s'appelle ANEF. Qui est la seule qui ne reçoit pas de subventions et qui ne met pas son argent dans des circuits qui finissent dans les paradis fiscaux ou dans les bulles de la finance. Quoi.
D'accord.
Oui, il faut bien quand même stocker finalement l'argent quelque part, même si l'argent circule, il faut quand même une banque et le stocker.
Oui, complètement. Et l'intérêt de la NEF, c'est qu'ils ont développent des microcrédits et des petits prêts qui sont aussi locaux. Donc, j'ai pas suivi l'avancement, mais normalement ça existe sur une plateforme en ligne pour faire ça, enfin avec ces plusieurs types de crédits. Mmh. Ce qui veut dire que la roue qui tourne sur le territoire, une roue c'est 1 euro. Alors sur ces euros, ils sont obligés, la NEF, donc j'espère que je suis assez clair, de garder 50 centimes de fonds de garantie. Mmh. Donc si les gens demandent de l'argent.
D'accord.
Mais il y a 50 centimes qui va repartir, on espère, sur des projets locaux.
D'accord.
Donc une roue qui tourne, en fait, c'est 1,50€ sur le territoire.
D'accord.
Bon, merci Jean-Marc pour cette explication. Peut-être que l'on peut rappeler rapidement le site internet de la roue, ou sauf si tu as d'autres choses à rajouter concernant la roue, un événement particulier.
Non, il n'y a pas d'événement qui me vient en tête. On sera présent sur la foire de Montfroc, sur d'autres, aux journées de la transition citoyenne. Ce sera donc le 24 septembre à Vologne, pas loin de Sisteron. Et donc le site où vous pouvez aller voir, donc c'est www.laroue.org et l'adresse email c'est sev04@riseup.net.
Merci beaucoup Jean-Marc.
Merci.
À bientôt sur Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.
HKL et Saltimbanque tout de suite sur Fréquence Mistral avec les temps modernes.
Va faire un crédit CTLM pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes. Si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses. Essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis pour payer les Nike à ton fils. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guiboles. T'es pris au cou, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez mes verres, te saouler à la Jupiler. T'as pas la dernière machine, t'as plus de boulot, t'as plus de copines, ta vie tient même plus à un fil. Va faire un tour sur la toile,
réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. Tu reconnais plus ta douce France, y'a trop de bougnoules, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau, si t'es devenu un vieux facho. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine, tout ça la chaîne.
Fréquence Mistral, Sisteron, Val de Durand.
Et oui, c'était HK et Saltimbanques sur le 99.2. Retour dans l'émission au Carrefour des Initiatives avec Charlie Divry et ses invités.
Merci Mario. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous parlons avec nos invités d'économie alternative, un bien gros mot que nous essayons de présenter de manière concrète au travers de quelques initiatives locales. Nous avons déjà abordé dans un premier temps de cette émission les monnaies locales avec la roue 04 qui se développe sur notre territoire, et nous allons maintenant en parler un peu de financement participatif. Alors cette idée en fait de financement participatif a débarqué en France en 2007, l'idée est simple, laisser les particuliers ou nous, simples citoyens, soutenir par le biais de plateformes internet, en fait, les projets qui nous correspondent. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de sites existent, des sites spécialisés dans le domaine du monde rural, comme Mimosa, ou encore plus généralistes, mais aussi plus visités et leaders en Europe, comme Ulule ou aussi bien KissKissBankBank qu'on évoquera tout à l'heure. En 2012, plus de 35 000 internautes avaient déjà apporté plus de 6 millions d'euros en dons, prêts ou capital. Donc c'est quelque chose d'assez important. Autour de la table pour parler financement participatif, nous avons Julie, qui est chargée de mission à la MJC et qui est co-organisatrice avec Andy du festival Regarde sous tes fenêtres. Donc vous me dites si je dis une erreur sur vos présentations. Et puis on a aussi Léonard, qu'on a entendu déjà dans le premier temps d'émission, qui lui est maraîcher sur Bignosque, et son entreprise s'appelle Les Jardins de Léoria. Donc merci à eux d'être là. Et justement, sans plus attendre, nous allons maintenant aller à la rencontre de Léonard, chez lui, en fait, sur son lieu de travail. Il a récemment, en fait, bénéficié d'un financement participatif afin de soutenir son activité de maraîchage. On l'écoute tout de suite au travers d'un petit reportage et on débattra à la suite de ce reportage.
Donc on est à Aubignosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et à Aubignosque, on est juste, on va dire, en dessous le village, quoi.
J'ai travaillé dans l'industrie pendant une dizaine d'années. Et par une histoire de contrat et tout, l'entreprise pour qui je travaillais, qui était en contrat avec une autre, a perdu son contrat, et donc moi on m'a demandé d'aller travailler dans les Bouches-du-Rhône. Et ben, c'était à ce moment-là de faire le choix de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste habité ici avec ma femme et nos deux enfants, ou est-ce que je fais la route tous les jours, ce que j'ai fait pendant 7 mois pour aller travailler dans les Bouches-du-Rhône. Donc 4 heures de route par jour, ça peut supporter un petit moment, mais c'est pas viable à long terme, quoi. Et ou alors de changer d'activité pour avoir un autre travail dans un autre domaine. Et bon, l'agriculture, ça nous intéressait toujours. Le jardinage nous intéressait. Et là, on est passé sur plus que du jardinage, c'est du maraîchage, quoi, c'est une autre échelle. Mais c'est intéressant, quoi. Nous, on a plaisir à ça. Nos enfants, ils ont vraiment plaisir à manger, récolter les légumes avec nous et tout. C'est une joie familiale, quoi, tout ça.
Et ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes ici?
Et donc, on a commencé donc sur cette grande parcelle-là, qu'on voit ici. On a pu attaquer faire les premiers travaux du sol en janvier de l'année dernière.
Ici c'est jardin 3, on a commencé la saison là-dessus avec les salades, fenouilles et tout. On a refait les planches pour refaire des semis pour la production d'automne. Là-bas on a les carottes, on a quelques séries de carottes, mais on s'est beaucoup laissé en gagner par l'enherbement sur ce côté-là. Parce que on n'a pas encore tous les outils qu'il faut et il nous faut un pouce-pouce que j'avais là, qu'on m'a prêté une fois l'année dernière. Et j'ai fait une série de carottes qu'ont très bien réussi à être bien désherbées et tout. Et là, j'ai pas pu l'emprunter et donc c'est la cata pour l'enherbement. Bon. Alors elle pousse un peu, mais...
Tout est ici? Du coup, il y a un autre champ
On aperçoit d'ici l'autre serre.
Ah, l'autre serre, ok.
Alors c'était la serre où on avait nos tomates l'année dernière. D'accord. Parce qu'en fait, on est en bio et en bio, on peut pas trop se permettre de mettre tout le temps... particulièrement les tomates
au même endroit
d'une année sur l'autre, mais il me faut une rotation de 4 ans, donc il faut plus de serres l'année prochaine, on sait pas encore où on va les mettre quoi. Mais ça nous permet, quoi, c'est pour éviter les maladies qu'on peut attraper sur les tomates, après on n'arrive pas à les faire pousser quoi.
D'accord.
Et en même temps d'avoir plus de serres, quoi, là on en a deux, mais il nous en faudrait 4 comme ça au total. 4,
pour pouvoir 5. Tourner tout.
Voilà, ça nous permet de faire des rotations et ça nous permet aussi d'avoir bien des légumes jusqu'en fin de saison et de pouvoir démarrer assez précocement dans la saison pour pouvoir pouvoir en vivre. Hein. Le but c'est pour nous avoir quelques sous pour vivre. Et là c'est les serres qu'on a installées, la plus grande serre on a installée l'année dernière. On peut dire qu'en intégration paysagère, on ne peut pas faire mieux parce qu'on s'en approche, on ne la voit pas.
D'accord,
et du village, on ne la voit pas, quasiment pas.
Donc là, on est sous la serre qui a été financée dans le cadre du crowdfunding.
C'est ça. C'est parti de rien. Il n'y avait rien jusque-là. Donc, il a fallu qu'on finance beaucoup de choses. Pour la première année, j'ai demandé à des amis et de la famille de m'aider à me financer, quoi. En fin décembre de 2015, on a fait le point, on était satisfait de tout ce qu'on avait réussi à mettre en place, tout ce qu'on avait réussi à produire, mais en même temps, on voyait qu'on avait une bonne demande par rapport à nos clients locaux, on ne pensait pas qu'on aurait autant de demandes en local, et que ça s'est vraiment bien développé. Et là, on s'est dit, on va rattaquer notre nouvelle saison, il faut qu'on achète des graines, il faut qu'on achète de l'engrais organique pour pouvoir mettre dans nos cultures, il faut qu'on monte une deuxième serre, une serre de production, on en avait monté une, on en avait une deuxième, donc tout ça, c'est des choses à faire. Ça, on sait que ça va nous coûter de l'argent, etc. Et en même temps, on a bien vu que tout ce qu'on produit démarre au début du plan. Donc en même temps, il faut qu'au niveau des plans, on ait des bonnes conditions. Et donc on a dit, il faut aussi qu'on investisse dans notre serre à plan pour la production de plans, parce que c'est de là que ça débute. Et là, il faut qu'on ait les meilleurs moyens au départ. Parce que si on a un beau camion pour livrer, ça fait pas des meilleurs légumes, mais par contre, si on arrive à bien produire nos plants, on a plus de chances qu'ils poussent mieux dans nos champs et ensuite à produire des bons légumes pour apporter à nos clients. On nous a prêté de l'argent, qu'il va falloir qu'on rembourse aussi, d'amis, et qui nous a aidés donc, pour la mise en place des cultures et tout. Et on nous a aussi prêté, pas donné, par le biais du crowdfunding pour cette serre à plants. Et donc là, on va commencer à donner aussi les contreparties sur lesquelles on s'était engagé. Après, on était un peu débordé. On avait dit, je crois, que ce serait livré pour juin. On est en juillet, on n'a pas encore tout commencé. Bon, c'est juste qu'on a été beaucoup occupés dans nos champs, mais on remercie vraiment grandement toutes les personnes qui ont été généreuses avec nous et qui nous permettent d'avancer jusqu'ici, quoi.
Ça représente quelle somme, du coup, à peu près, pour le crowdfunding?
On avait demandé 3200 euros pour la collecte et on l'a dépassé et on a eu une collecte à, je crois, 3800 euros.
D'accord.
Qui a été faite.
Et les gens sont issus du local ou...
Pas mal et notamment tous les clients qu'on avait pu rencontrer sur nos marchés, ça a été dans les premiers à nous soutenir. Je les remercie vraiment grandement parce que... ça nous montre aussi que ce qu'on produit, c'est quelque chose qu'ils recherchent et qu'ils veulent vraiment nous accompagner et nous soutenir, quoi. Et après, diverses personnes de divers horizons, en fait, on essaye de se faire connaître le plus largement possible. Et puis, notre projet, on a essayé de l'expliquer le plus, hein, de manière la plus intéressante et la plus vivante possible. Et ça a plu et ça a parlé à pas mal de monde. Donc, on nous a suivis comme ça.
Et quels sont vos points de vente, là, du coup, aujourd'hui?
Et donc aujourd'hui, on fait deux marchés par semaine. Un marché le mardi après-midi à Aubignosc, de 16h à 19h30. Et un marché le vendredi après-midi devant le CE de Sanofi à Sisteron. D'accord. Donc de 16h à 18h30.
D'accord.
Et on propose aux gens, s'ils veulent, de pouvoir commander à l'avance via notre adresse mail. Ils nous envoient un mail pour nous demander qu'est-ce qu'on a à la vente. Et puis on leur envoie chaque semaine nos légumes disponibles avec le prix. Et eux, ils peuvent nous commander, on peut leur préparer le panier. Ensuite, on vend aussi dans deux magasins, donc la Vie Claire à Pépin et Les Potres à Sisteron, un magasin bio. Et je travaille aussi un peu avec Le Beau Soleil, un restaurant sur UPEX, un restaurant gastronomique.
D'accord.
Qui est dressé et tout.
Ok. Alors,
les magasins, quand on les démarche, ils sont tous dans une... Quand on peut être dans des prix corrects vis-à-vis de ce qu'ils peuvent avoir comme produit, ils sont dans une démarche de vouloir du local, quoi. Les clients le demandent de partout et les magasins jouent vraiment le jeu par rapport à ça. Après, il ne faut pas avoir des prix exorbitants non plus parce que sinon ça se retrouve sur le consommateur. Mais bon, mais il y a vraiment... On sent vraiment qu'au niveau des consommateurs, à l'heure actuelle, il y a une grande démarche de vouloir manger du local. C'est bien pour nous, quoi.
Ouais.
Pour une fois qu'on est bien tombé au bon moment.
Voilà pour le reportage Les Jardins de Léoria, réalisé par Charlie Divry. Eh bien, retour dans cette émission donc au carrefour des initiatives avec nos amis, hein, Julie et Andy. Donc Charlie, je te passe le flambeau.
Merci Mario. Effectivement, on va faire une petite pause musicale, en tout du moins un extrait.
Un petit aperçu,
effectivement. Merci Mario, des artistes qui sont présents durant le festival. Je te laisse la main, Andy, pour présenter
le premier morceau.
Alors, nous allons écouter un morceau de The Mimétiste qui s'appelle Président. The Mimétiste, qui est un groupe human beatbox piano, carrefour entre le jazz, la chanson, le hip-hop et le reggae. Ils nous viennent de Marseille et ça sera vendredi 22 juillet au festival Regarde sous tes fenêtres à Saint-Auban.
Allez, on écoute ça tout de suite sur Fréquence Mistral.
Je suis le nouvel observateur, je vois les manigances, décrypte le moindre facteur qui rythme la cadence. Nous pourrions faire taire ces foutus maîtres chanteurs, mais l'argent n'a pas d'odeur et l'homme est un suiveur.
Petit aperçu, The Mimétiste avec President. Pour en avoir un petit peu plus, il va falloir être patient, n'est-ce pas Charlie?
Oui, on écoutera un dernier morceau à la fin de l'émission d'un des artistes qui passera durant le festival Regarde sous tes fenêtres, qui a notamment été financé dans le cadre du financement participatif, du crowdfunding, et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors justement, Andy, Julie et puis Léonard aussi qui est à nos côtés, le crowdfunding, visible, enfin, comment ça se passe et pourquoi ce choix finalement pour financer de la culture mais aussi une activité économique au travers du maraîchage pour nous.
Pourquoi ce choix ? Ben, pour nous concrètement, on a été soutenu par le conseil général, par la mairie de Saint-Auban et par le théâtre Durance et la communauté de communes pour le matériel et financièrement. Après, pour clôturer notre budget, on avait encore besoin d'une rentrée financière et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le financement participatif permet à des associations de tous bords, que ce soit culturel, que ce soit de la production, quel que soit le domaine finalement, de promouvoir un projet et de permettre aux personnes directement liées ou présentes sur l'événement de participer au projet. Et donc du coup nous ça nous a permis de clôturer notre budget en fait par le biais du financement participatif.
D'accord, on a entendu parler, pour faire le lien aussi avec Léonard, des personnes qui avaient financé au travers du crowdfunding. Ça doit être une plateforme finalement nationale. On voit aussi au travers de Léonard qu'il y a des personnes en local qui ont financé le projet, notamment les consommateurs pardon, des fruits et légumes.
Oui, c'est sûr que nos clients, certains de nos clients ont répondu par rapport en finançant une partie de notre collecte. Après, c'est vrai que c'est une collecte de crowdfunding comme ça, ça dépend aussi beaucoup du réseau qu'on a et qu'on met en œuvre. Nous, on a fait intervenir nos clients, mais j'ai aussi fait intervenir mes anciens collègues de travail, etc., à qui j'ai informé de ce que je faisais et du financement que j'avais besoin. Après, ma famille aussi, qui est assez éloignée dans la France, des amis et de l'étranger. Et c'est vrai qu'après, on informe beaucoup de monde et il y en a certains qui répondent à l'appel et ça vient après de divers horizons. Ça permet, c'est vrai, de financer des projets. Donc quand ça arrive à bout, parce qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas non plus et qui sont pas financés, et c'est une chose qui arrive, quoi.
Ok. Voilà. Et du coup, par rapport au festival Regarde sous tes fenêtres, est-ce que c'est le cas aussi ? C'est des personnes aussi en local comme Léonard et d'autres issus du national ou
Bon, alors déjà, bonjour. pour nous, ça a été un peu la même chose. Je pense que l'essentiel des personnes qui ont participé au financement sont des gens qui soit nous sont proches, soit qui connaissent le projet et qui ont participé en tant que public ou qui l'ont regardé de loin, parce que ça s'étendait quand même dans toute la France, ceux qui ont soutenu, quoi.
D'accord. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Léonard disait qu'il fallait beaucoup communiquer autour du crowdfunding. Il ne s'agit pas juste de mettre en ligne le projet, il faut aussi le vendre, finalement, vendre sa page de financement participatif, quoi.
Oui, c'est ça. C'est il faut absolument informer en permanence qu'il y a ça qui tourne sur le web, que ça soit par les réseaux sociaux ou par les listes mail. Et j'irais même à dire jusqu'aussi à ses propres contacts. On a demandé, enfin, en fait, on s'est dit dans le collectif qui organise le festival, on s'est tous dit, il faut que personnellement on contacte nos amis, nos proches. Pour sensibiliser les gens au financement, en fait.
Mmh. Et est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce qu'on peut parler finalement assez concrètement ? Comment ça se passe pour du financement participatif ? Comment mettre en ligne sur une plateforme ? Il y en a, je le disais en introduction, plusieurs. Quel choix on fait aussi de plateforme, etc. Voilà, toutes ces questions concrètes, finalement. Est-ce que, Andy, tu peux nous en dire deux mots ?
Le choix est vaste. Il y a énormément de plateformes à l'heure actuelle parce que le financement participatif s'est énormément développé. Nous, on a fait un choix de mettre sur une certaine plateforme. Après, il y en a énormément. Donc, nous, ça a été le choix de la visibilité. Voilà, concrètement, ça a été ce choix-là. Après, à mettre en ligne un projet, finalement, le financement participatif demande une construction de projet un petit peu à l'image d'une demande de subvention. Mmh. Il y a quelle est l'histoire du projet, quel est l'objectif du projet, à quoi vont servir les financements et je dirais le plus, ce qu'il faut ajouter à cette conception de projet, c'est aussi l'aspect communication. Il faut mettre en place un réel plan de com en fait avant même de mettre en ligne sa plateforme sur la plateforme pour pouvoir de suite toucher le public et les personnes qui sont susceptibles de financer ce projet. Mettre simplement en ligne un projet ne va pas forcément aboutir au financement du projet. Il faut l'alimenter. Donc nous, par exemple, ça a été par le biais de teasers, de vidéos des artistes qui seront présents sur le festival. Il y a eu de la communication photo, il y a eu de la mise en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site internet.
Donc il faut qu'il soit attrayant finalement. C'est un produit qu'il faut vendre. Il faut vendre le produit avant d'avoir.
C'est un petit peu ça. Il y a plus la page est complète, plus il va y avoir d'informations sur le projet et plus le public va pouvoir visualiser aussi l'aboutissement du projet. Plus le public fera confiance au projet en fait, en quelque sorte. Quoi.
Je confirme tout à fait par rapport à ça. Nous aussi, nous pour le financement, on avait besoin d'une serre à plan en fait, qui est pas trop parlant pour tout le monde, qui n'était pas du métier. Et on a essayé de bâtir une histoire et quelque chose qui donne envie aux gens qui soit attrayant et qui raconte une histoire. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de difficultés dans la suite parce que avec tout ce qui est des contreparties, etc. Donc, on commence et on attaque à les redistribuer, mais étant débordé par notre activité de maraîchage en pleine saison à l'heure actuelle, c'est un peu délicat pour nous. Mais on essaye de reprendre un peu la communication après l'avoir lâchée pendant quelques mois et pour réinviter nos kiss bankers à nous solliciter pour les contreparties et leur redonner. Quoi.
Ça aussi, c'est une des spécificités, finalement, on n'en a pas parlé. Certes, les gens donnent un petit peu de leur argent, mais il y a des contreparties. Chez vous, c'est quoi les contreparties au niveau du festival?
Ça va crescendo, en fait, en fonction du montant donné. Ça commence par un remerciement sur la page Facebook et ça se termine avec des affiches dédicacées, des cadeaux donnés par un artiste. Il y a également une invitation au catering, des boissons offertes sur l'événement. Donc voilà, plus le montant donné est élevé, plus le nombre de contreparties grandit.
Donc vos deux campagnes sont terminées à vous deux, que ce soit pour le jardin de Léoria ou même pour le festival. Les deux campagnes sont terminées là actuellement?
Oui, tout à fait.
Si vous avez des conseils pour ceux qui nous écoutent, pour le crowdfunding, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que faut penser à des choses que vous auriez dû penser à des choses qui aujourd'hui vous paraissent évidentes?
Nous, on s'est dit a posteriori qu'on aurait peut-être, bon là, c'est pour la question d'un événement, qu'on aurait peut-être mieux fait de laisser couler l'événement, enfin de laisser couler le crowdfunding jusqu'à l'événement, jusqu'à la clôture de l'événement aussi, parce que on parlait de toute cette communication et je trouve que au plus on communique et au plus on donne des éléments concrets sur pourquoi on demande de l'argent, au plus c'est rassurant aussi, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, il y a plein de gens qui sont encore frileux d'utiliser leur carte bleue sur internet, donc on a dû prendre aussi des gens par la main en leur disant non mais enfin ça va, on va le faire ensemble, on va expliquer, c'est tout un schéma aussi qui est pas habituel aussi. Et du coup aussi peut-être de voir, de vivre cet événement, ça aurait rendu ça donne aussi encore du concret là. C'est pour ça. Le coup on est dedans, donc tiens je vais donner ma pièce parce que j'ai vu ça, ça aurait peut-être été bien.
Okay. Juste le truc c'est que vous aurez pas eu l'argent pour financer votre festival si
non.
C'était en cours,
c'est clair.
Vous l'auriez eu peut-être après du coup, mais dans le cadre d'un événement comme ça, il y a des choses qu'on finance un peu après festival.
Ça,
donc
aussi, ouais.
Voilà, il y a peut-être l'avance de trésorerie est importante effectivement pour engager un certain nombre de choses, mais mais c'est des problématiques à prendre en compte effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez
Ce qui avait été dit tout à l'heure, quoi, vraiment avoir une réelle histoire, un projet, quelque chose que c'est vraiment un projet qu'il faut faire vivre et donner envie aux gens. C'est avoir trois idées et les mettre comme ça, je dirais que ça peut être un peu facile, mais expliquer vraiment ce qu'on a au cœur et donner envie aux gens, c'est ce qui est vraiment important et qui permet d'avoir quelque chose qui puisse aboutir, quoi. Et après, il y a aussi dans les choses pour un crowdfunding important, c'est arriver à jauger
de combien on peut arriver à demander au réseau qu'on a.
C'est ce que je voulais.
On a
Julie et Andy aussi. C'était la notion aussi à aborder dans le cadre du crowdfunding.
Et c'est pas évident parce que, à savoir qu'un crowdfunding, quand on le démarre, il n'a abouti et il est positif. Quoi, on peut recevoir l'argent qu'à partir du moment où on a réussi à collecter un certain montant, un certain pourcentage. Selon les plateformes, c'est 100 ou 60%. Mais en dessous de ces montants-là, eh bien, l'argent est restitué à ceux qui veulent financer les projets. Donc, il faut arriver à jauger à l'avance de combien on peut arriver à faire, je sais pas, une levée de fonds, ouais, comment c'est appelé, combien on peut arriver à collecter de financement, et après il vaut mieux se dire que ça peut dépasser plutôt que de se dire qu'on n'arrive pas à atteindre la somme, quoi.
Andy, vous avez autre chose à ajouter avant de conclure cette émission?
Peut-être juste pour aller dans le sens aussi dans les conseils, créer cette histoire et donner envie, mais aussi expliquer pourquoi. Réellement, pourquoi on en vient à un appel? Est-ce que c'est un principe aussi de dire bon, bah, en fait, pour le coup, bon, nous, cet événement, c'est aussi vous qui vous l'offrez, cet événement. C'est par votre participation, ben, vous rentrez dans le soutien à ce genre d'événement. Enfin, voilà. Et je trouve que cette chose-là, elle est importante à expliquer dans le montage du projet. Voilà.
Ouais. Merci beaucoup. On aurait pu encore aborder. Plein de choses, mais le timing est là. Et Andy, peut-être juste un petit mot sur le festival qui va se dérouler, qui commence demain, pour faire un peu de pub au festival.
Le festival commence demain et se poursuit jusqu'à samedi inclus. Ça se passe à Saint-Auban, dans les Alpes de Haute-Provence. Ça démarre à 17h30 demain avec un apéro d'ouverture, et après je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur le site internet, voilà, tout en renseigné. Il y a le programme complet et détaillé que je vais pas énoncer parce qu'il est très conséquent. La seule chose que je peux vous dire pour vous mettre en haleine, c'est qu'on a des très bons artistes, on a du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, il y a des ateliers, il y a des installations faites par des artistes venus un petit peu de partout. En fait, c'est un festival super, très éclectique, et au carrefour entre l'amateur et le professionnel aussi. L'idée, c'est de pouvoir mélanger et faire profiter les artistes amateurs.
Parfait, merci beaucoup.
Avec les professionnels.
Merci beaucoup Andy, Julie, merci à toi aussi Léonard pour les jardins de Léoria, et puis merci à Jean-Luc également, Jean-Marc, pardon, excuse-moi, qui est pas très très loin, qui nous a présenté la monnaie locale, la roue. Juste pour conclure très rapidement, on retrouve quelques éléments bibliographiques. Made in Local de Raphaël Souchier, qui parle de la renaissance de la finance locale après notamment la crise de 2008, mais pas seulement. Le bouquin également Un bilan de révolution tranquille de Bénédicte Magnier, qui parle de l'essor des monnaies locales à l'échelle mondiale. Le dossier spécial d'alternative économique sur les monnaies locales qu'on a évoqué tout à l'heure. Et bien évidemment, ce qu'on a évoqué aussi, le film Demain, qui tourne encore et qui est sorti en DVD, un film qui est réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent et qui présente de manière concrète l'utilisation des monnaies locales. On va conclure.
Financé en crowdfunding.
Exactement, j'y ai participé. C'est aussi pour ça que. Oui, voilà, exactement. On va faire une petite. On va conclure avec une musique, et notamment d'un artiste. Du festival.
Présent sur le festival, c'est un extrait musical de Yuna Project qui s'appelle Heroes. Ils seront vendredi sur le festival. C'est au carrefour entre le hip-hop, l'électro et le rock. Voilà. Bonne écoute.
Voilà les amis, c'était au carrefour des initiatives sur Fréquence Mistral, Yuna Project avec Heroes. Salut à tous. This out, yeah, I'm blowing with the hour, with an ego. Blowing with the legos, back to zero. Some make fun of my flow. Wicked legs in the metro. It's good we get to get to fight on the track. Face to face, mic against mic. Attractive smile, vicious back to your plate. Ready to fight? Forget, shit easy to do, why? All you gotta do is put you back out of fear. I'm gonna burn my body if you come back with your gym. Keep up, keep up, keep up, keep up.
day to see them come alive to my brew. My grandma used to say to me, never let them see yourself brew. Not turn a friend upside down. Hey, hold on.
Vous aimez ce que vous entendez? Eh bien, Yona Project avec Heroes, c'est lors du festival Regarde sous tes fenêtres à Saint-Auban. C'est à partir de demain, totalement gratuit, les amis. Une très très belle occasion de sortir et faire le plein de culture. Ciao, salut à tous, très bonne soirée sur Fréquence Mistral. Get away, get some breathing space. Just gonna wear my poker face.